Les séminaires du Collège de France.
Bon, écoutez, on va continuer avec le séminaire. On va passer de la Bible aux Assyriens, mais c'est quand même très lié. Ce sont les Assyriens, on n'aura pas grand-chose dans la Bible. Et donc j'ai eu le grand plaisir, je pense certains d'entre vous le connaissent, de vous présenter Lionel Marty, qui est donc chercheur au CNRS, qui est directeur adjoint de l'UMR 71-92, Proclact, dont je fais partie aussi, et bien d'autres ici. Et donc, il est spécialiste justement de l'époque néo-assyrienne. Il a travaillé sur des inscriptions, mais aussi sur l'histoire. Et je ne vais pas vous lire toute sa bibliographie, qui est quand même assez longue, peut-être juste son livre. Là, on est plutôt au deuxième millénaire encore. Après, il s'est converti du deuxième millénaire au premier, ce qui, pour nous, le bibliste, est évidemment plus intéressant. Mais le livre est quand même très bien, c'est sur les nomades, les sédentaires à Mari, sur la perception d'une certaine taxe, donc livre qui était publié en 2008 déjà, donc je ne sais pas si tu prépares un autre.
Il y en a d'autres qui arrivent.
Voilà, il y en a un autre qui arrive, peut-être il nous l'expliquera. Donc aujourd'hui, il va nous parler, et c'est tout à fait dans le sujet, donc un pouvoir en Assyrie peut-il être illégitime? Parce que nous avons vu, Saül, à un moment où il déclarait illégitime. Est-ce que ça peut arriver chez les Assyriens? Vous allez le savoir d'ici un petit moment. Donc je vous rappelle aussi que de nouveau, nous sommes un tout petit peu pressés par le temps, mais pas de stress, puisqu'il y a une leçon inaugurale qui aura lieu dans la même salle à 18h. Et donc si on peut terminer vers 16h30, ce sera parfait. Donc Lionel parlera une heure à peu près, et ça nous laissera du temps pour des questions. Vous ne serez pas frustrés à ce niveau-là. Voilà, merci Lionel, et je te laisse la parole.
Merci Thomas. Donc tout d'abord, je voudrais remercier Thomas Römer de m'avoir invité à venir parler aujourd'hui. C'est toujours un plaisir et un honneur de suivre ce séminaire, et surtout de s'interroger sur des concepts. Parce que vous savez que la grande caractéristique d'un concept, c'est qu'on l'utilise sans jamais le définir. Et donc là, on va se poser la question justement de comment est-ce qu'on définit la notion de légitimité et surtout est-ce qu'on peut s'en servir finalement. Par ailleurs, je me suis dit que comme la journée était longue, je vais vous proposer plutôt de travailler aujourd'hui plutôt que ce soit moi. Donc au lieu de vous faire un exposé qui va tout dérouler, je vais vous présenter des faits et puis vous me direz à la fin ce que vous en pensez. Et j'espère que vous avez prévu de l'aspirine parce que je vous préviens, il va y avoir quelques moments un petit peu compliqués. Alors, comment devient-on roi? Peut-on être roi sans être légitime? Faut-il se légitimer lorsqu'on ne suit pas les règles de succession? Voilà les questions que nous nous posons tous lorsque l'on s'interroge sur la notion de légitimité royale et de royauté. Dans le cas de l'Empire assyrien des 9e-7e siècles, cette question semble se poser car il connut, comme d'autres régimes politiques, son lot d'usurpateurs, etc., etc. Or, il nous livre aussi une riche documentation issue de la sphère royale qui nous permet d'étudier la façon dont le pouvoir se met en scène et se représente, et ainsi nous permettent d'analyser des éléments de discours qui pourraient montrer une légitimation à l'œuvre. Alors, je souhaitais commencer par m'excuser, car j'ai ajouté, comme vous pouvez le constater, un sous-titre à ma communication. Je plaide coupable, mais étant dans le temple de la recherche en train de se faire, je sais que vous me pardonnerez. Lorsque j'avais envoyé mon intitulé à Thomas Römer, je pensais vous faire une présentation assez générale sur la question de la légitimité, à la fois du pouvoir royal et des pouvoirs locaux. Mais, en préparant ma communication, je suis tombé sur un cas d'espèce particulièrement intéressant, celui de Samsiadad V, car il permet finalement de questionner la validité de l'usage de la notion de légitimité dans nos études, à la fois du point de vue assyrien, mais aussi, ce qui est plus important, pour le chercheur. Lors de la séance précédente, Laura Battini vous a présenté à grands traits l'histoire assyrienne. Je vous propose aujourd'hui, à partir d'un des cas qu'elle a exposé, de l'analyser plus en détail, et cela sera donc le cas de l'accession au trône de Shamshi-Adad V, fils de Salmanazar III. En effet, son accession au trône a été commentée à de nombreuses reprises, alors je vous en donne deux commentaires très rapides pour planter le décor. David Oates nous explique que le long règne de Salmanazar prit fin avec une rébellion fomentée par l'un de ses fils et impliquant les villes d'Assyrie et, plus à l'ouest, celle du Rabour, une rébellion que son successeur, Samsiadat V, prétend avoir réprimée. Donc là, nous avons un exposé extrêmement factuel. Remarquez quand même déjà un léger, comment dire, jugement de valeur dans le « prétend avoir réprimé ». Eckhard Fram, qui est un très grand assyriologue et qui a écrit plusieurs livres sur l'histoire assyrienne, nous explique « l'incapacité croissante de Salmanazar à gouverner a conduit à une crise interne qui a éclaté en 826 lorsque l'un des fils du roi, Ashur Dain Aplu, s'est retourné contre son père, déclenchant une guerre civile. Même si les détails exacts de cet épisode restent flous, tout porte à croire que la défection d'Ashur Dain Aplu a été motivée par la décision de son père de le priver de son rôle d'héritier présomptif et de le remplacer par un fils plus jeune auquel il a donné le nom royal de Samsiadad V. Eckhard Fram propose donc un scénario beaucoup plus psychologique dans lequel on retrouve les composants qui forment justement les besoins de se légitimer pour un futur roi. Une rébellion, une accession au trône difficile, etc. Alors, il faut bien dire que nous sommes assez peu renseignés sur la façon dont on devient roi en Assyrie, et surtout, nous ne savons pas si les cas ponctuels qui sont disponibles forment la norme ou l'exception. Rappelez-vous toujours de ça, en histoire, quand on a un événement, on a toujours tendance à considérer qu'il s'agit de la norme. Il faut toujours supposer que ça puisse aussi être quelque chose d'extrêmement ponctuel. Alors, je vous ai présenté ici l'image du fameux rituel dit de couronnement de l'époque médio-assyrienne. On suppose que le roi en place désignait probablement, à un moment donné, un de ses fils prince héritier. Ah ah, la malédiction assyrienne. Bon, je ne dis plus de méchanceté sur les Assyriens. Et qui pouvait être le plus souvent ce prince héritier, l'aîné de ses enfants. Nous savons que la désignation d'Assurbanipal, par exemple, entraîna une prestation de serment de la population et des vassaux des Assyriens. Il est fort possible que ces pratiques existaient antérieurement, mais nous n'en avons aucune trace. Nous savons aussi qu'il était possible que le roi puisse changer d'avis en cours de route et désigner un autre prince héritier alors que le précédent était toujours vivant, ce qui fut notamment le cas de Sennachérib avec Esarhaddon. Et vous savez tous ce que cela a entraîné, une rébellion, le meurtre de Sennachérib et l'accession tumultueuse au trône des Saradons. Soulignons aussi que nous ne savons pas s'il y avait un statut d'héritier présomptif qui pouvait ensuite être officialisé plus tard. Donc on imagine toujours qu'on désigne un héritier, mais on ne sait pas trop si il y a plusieurs niveaux de désignation. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que justement, gardez toujours ça en tête. On a toujours une impression de relative simplicité et d'évidence, mais l'évidence en histoire est quelquefois problématique. À la mort du roi, l'héritier montait sur le trône puis était couronné. Il est par ailleurs fort possible que devenir roi en Assyrie nécessitait plusieurs étapes, dont une qui était le passage par la ville d'Ashur où on était couronné. Pensez au roi de France qui devait être couronné à Reims, par exemple. Je vous propose donc maintenant de passer à un cas pratique qui illustre parfaitement notre problématique, celui de l'accession au pouvoir de Samsiadad V, et qui, pour être fidèle à la devise de l'établissement, va vous montrer ce que c'est que la recherche est en train de se faire. En effet, la question de la légitimité du souverain et de sa justification ont une grande influence sur les travaux qui lui sont consacrés. Je vous propose donc aujourd'hui d'instruire le dossier en vous présentant les arguments et surtout les problèmes des sources et de méthodes auxquels nous sommes confrontés. Et à la fin, je vous demanderai votre avis, tout simplement. Au cours des différents séminaires et cours précédents, vous avez pu voir s'esquisser une définition de la légitimité. Je ne reviens pas là-dessus. Je me permettrai juste quelques remarques. Je vous rappelle que si l'on consulte nos dictionnaires, simplement, vous voyez que la légitimité se comprend comme le caractère de ce qui est fondé en droit ou de ce qui est conforme à l'équité, à la raison, aux règles établies, à la tradition. Donc vous voyez tout de suite ici le problème. Ça peut fonctionner relativement bien pour nos sociétés modernes, pour les sociétés antiques. Comment se fonde le droit? Bon, là, on va rentrer dans la philosophie, mais une fois encore, gardez ça en tête. Bon, qu'est-ce qui est légitime, une fois de plus, qui est fondé en droit, qui présente les conditions, les qualités requises par la loi et par extension, qui est conforme au bon droit, à la raison, à l'équité, qui se justifie, qu'on peut admettre et excuser. Ensuite, légitimer, c'est rendre déclaré légitime un enfant naturel, faire reconnaître pour authentique et conforme à la loi, etc. etc. Et légitimation, chose très intéressante, c'est l'acte par lequel un enfant naturel est légitimé. Alors, finalement, la question que je souhaite aborder avec vous aujourd'hui, celle de savoir si notre personnage est légitime, s'il va avoir besoin de se légitimer, et finalement, si ces questions sont les bonnes. Pour ce faire, je vous présenterai tout d'abord le contexte des sources non royales à son sujet, puis ses inscriptions royales, et enfin, nous analyserons l'iconographie de la stèle qui comporte l'inscription la plus complète de ce souverain. Un peu de contexte historique. Le père du futur Shamshi Adad V, Salmanazar III, fait partie des très grands rois néo-assyriens. Il a poursuivi la politique d'expansion de son père Assurnasirpal II et, pour la première fois, commence à conquérir des territoires situés hors de la zone d'influence médio-assyrienne, notamment l'ouest de l'Euphrate. Il est connu, mais ça, comme vous avez suivi les cours de Thomas Römer, vous ne pouvez pas l'avoir oublié, pour sa participation à la bataille de Karkar en 853, au cours de laquelle s'affrontèrent les troupes assyriennes et une coalition de puissances levantines qui se solda par un statu quo. On notera aussi, car cela sera important pour la suite, que Salmanazar III intervint en 851 et 850 pour aider le roi babylonien Marduk-Zakir Shumi, ce qui aboutit à l'une des poignées de main les plus anciennes de l'histoire, comme vous pouvez le voir ici, sur la base du trône de Salmanazar III, avec le roi babylonien ici et Salmanazar de l'autre côté. La fin du règne de Salmanazar III fut quelque peu chaotique, car la Syrie fut secouée par des révoltes liées probablement en partie à la vieillesse du souverain, nous y reviendrons. En effet, compte tenu de son long règne, 35 ans, selon la liste royale assyrienne, il est possible qu'il ait été atteint par certains effets de l'âge, ce qui expliquerait notamment que les dernières campagnes militaires assyriennes de son règne aient été menées non pas par lui-même, mais par son général en chef. Cela illustrerait une possible dégradation physique de l'état du roi, et il est d'ailleurs possible que cette dégradation physique ait pu avoir pour conséquence le développement de diverses velléités concernant la succession royale, tant chez les enfants du souverain que parmi les grands du royaume. Nous ne savons rien de ce qu'avait préparé Salmanazar III pour sa succession. Nous sommes assez peu renseignés sur la façon dont on devient roi, je vous l'ai déjà expliqué, et ce que l'on peut vous dire, c'est que la liste royale assyrienne que vous voyez ici, si on la consulte, elle donne documents extrêmement intéressants. Elle vous liste l'ensemble des rois assyriens, depuis les rois mythologiques qui ont vécu sous la tente jusqu'à Salmanazar V, c'est-à-dire le prédécesseur de Sargon II. Donc ça vous fait plus d'un millénaire de souverains assyriens. Eh bien, si on consulte cette liste, qui pourtant parfois indique quand un personnage est un usurpateur ou qu'une succession s'est faite de manière violente, dans notre cas, nous voyons ici qu'on nous dit que Salmanazar III, fils d'Assurnasirpal, régna 35 ans, Shamshi Adad V, fils de Salmanazar III, régna 13 ans, enfin, Adad-Nirari III, fils de Shamshi Adad, régna 28 ans. Donc, si on consulte ce document, tout s'est très bien passé, la succession s'est bien passée, et il n'y eut aucun problème au niveau des règnes. Lorsque l'on consulte la liste éponymale, la chronique éponymale, qui livre pour la succession des éponymes leur titre, la direction de campagne militaire et parfois certains événements supplémentaires, on constate que la fin du règne de Salmanazar III et le début du règne de Shamshi Adad V fut marqué par des révoltes, dénommées Sirou. Le fait que à ces révoltes ne soient pas associés de noms géographiques, comme cela peut être le cas par ailleurs, illustre le fait que cette révolte ou ces révoltes concernèrent plusieurs localités, voire de nombreuses localités. Il fallut attendre donc l'éponyme de Beldane en 820 pour que la révolte soit plus qu'un peu plus maîtrisée, parce que le terme employé est simplement dire révolte écrasée. On notera qu'une partie des grands, comme vous le voyez ici, voilà, vous voyez ici, vous avez la succession, donc le général en chef, le héros, etc. Si vous prenez la succession des grands ici et celle qui est ici qui doit les reprendre, vous voyez que nous n'avons pas forcément les mêmes. Donc on constate que certains grands disparaissent dans la tourmente. Si certains ont pu mourir de vieillesse, d'autres ont pu faire les frais des révoltes, tandis que d'autres conservent leurs fonctions et que certains prennent, on pourrait dire, du galon. C'est le cas, par exemple, de Yaralou, qui passe de trésorier à général en chef. De cela, on peut en déduire que la succession de Salmanazar III ne fut pas paisible et que la révolte a très probablement à voir avec des questions de succession. Enfin, bien que la révolte ait été dite écrasée et que les deux années suivantes, vous avez donc ici, furent dirigées vers des objectifs militaires, on constate que les deux campagnes suivantes furent dirigées vers la ville de Tilé, qui pourtant est en territoire assyrien, donc qui s'est soit révoltée, soit a subi l'assaut d'un envahisseur. On le voit, la situation politique du royaume n'était pas très stable et le pouvoir du roi Shamshi-Adad V ne semblait pas très affirmé. Cela explique probablement qu'un traité entre ce dernier et le roi babylonien Marduk-Zakir-Shumi ait été retrouvé. Alors évidemment, vous voyez, le démon veille, nous n'en avons qu'un fragment, donc en gros on ne sait pas de quoi ça parle, mais on sait juste que ces deux personnages sont impliqués à l'intérieur. Ce fragment de traité entre Shamshi-Adad V et Marduk-Zakir-Shumi, donc celui-là même dont vous vous souvenez qui avait serré la main de Salmanazar III, a été retrouvé à Ninive. Certains considèrent que ce traité a été conclu alors que Shamshi-Adad n'était pas encore roi, notamment parce que dans ce texte, Shamshi-Adad n'est pas qualifié de roi, tandis que le roi babylonien Marduk-Zakir-Shumi est lui qualifié de roi. C'est une possibilité. Mais cela signifierait alors que Shamshi-Adad porterait déjà son nom de règne avant d'être monté sur le trône. Cette situation est connue pour le roi Esarhaddon, mais vous voyez, pour une distance temporelle un peu plus longue, puisqu'on sait que Esarhaddon n'est pas un nom de règne. Vous voyez un exemple où on nous dit ici « Sennachérib, roi du monde, roi d'Assyrie, des bracelets en or incrustés d'ivoire, une couronne en or, un collier en or, des anneaux pour le haut du bras, tous ces bijoux incrustés d'agate et de chalcédoine, pesant une mine et demie et deux cycles et demi, je les ai donnés à Esarhaddon, mon fils, qui s'appellera désormais Ashur-Etel-Ilani-Moukin-Apli, en gage d'amour. » Alors, un petit mot là-dessus, on sait très bien que la succession de Esarhaddon, enfin de Sennachérib, a été problématique. On comprend pourquoi on lui a donné ce nom de Ashur-Etel-Ilani-Moukin-Apli, puisque cela signifie Ashur, le héros des dieux, est celui qui a instauré l'héritier. C'est quand même beaucoup plus sympathique qu'Esarhaddon. En revanche, donc revenons-en à notre traité. Pourquoi un traité aurait-il été conclu entre le prince héritier et le roi de Babylone alors que le père était toujours vivant? Le fait que Shamshi-Adad ne soit pas désigné comme roi peut s'expliquer autrement. Dans certains traités postérieurs, il arrive que le nom du roi d'Assyrie ne soit pas suivi de son titre. Enfin, dans ces traités, on constate que parfois, dans le corps du texte, celui qui est qualifié de roi est dans une position hiérarchique supérieure à l'autre, ce qui ne l'empêche absolument pas d'être roi. Voici, ah oh, j'ai encore dit une méchanceté sur les Assyriens, un exemple du traité entre Esarhaddon et Baal de Tyr, qui, Baal de Tyr, est qualifié de roi au début du texte, mais ensuite ne l'est plus, alors que Esarhaddon est toujours qualifié de roi assyrien. Je vous rappelle que dans le traité que je vous ai montré, nous n'avons que la partie basse du texte, donc il n'est pas impossible que Shamshi-Adad, dans la partie cassée, ait pu être appelé roi. Enfin, dans ce texte, le roi babylonien est qualifié de roi et non pas de roi de Babylone. On se demandera donc si ce texte n'illustre pas une forme de subordination de Samsiadad envers le roi babylonien. Le traité aurait donc pu être conclu alors qu'il était déjà roi, mais compte tenu de la situation de son pays en pleine révolte, il se serait positionné comme inférieur au roi babylonien. Il est d'ailleurs possible que ce soit ce soutien babylonien qui ait permis à Samsiadad de mater la rébellion. Alors, les origines de Samsiadad, une fois de plus, nous ne savons pas grand-chose. Nous savons qu'il était le fils de Salmanazar III, je vous l'ai déjà dit, mais, et ça c'est la grande caractéristique de la majorité des rois du Proche-Orient, nous ne connaissons pas sa mère. Actuellement, une hypothèse très intéressante propose que Salmanazar ait pu recevoir, suite à son aide au roi Marduk Zakir Shumi, une de ses filles comme épouse, et que donc, Shamshiadad V ait pu être, dans ces cas-là, le fils de Salmanazar et d'une babylonienne. Dans ce cas, il aurait pu avoir autour de 26 ans au plus à la mort de son père. Lorsque l'on lit la chronique concernant l'aide qu'apporta Salmanazar et qu'on la compare avec l'épisode précédent, vous voyez ici, l'hypothèse serait de retrouver l'échange de filles dans la cassure. Alors évidemment, vous savez toujours que les textes intéressants sont cassés aux bons endroits, mais si vous suivez, vous regardez. Ils conclurent un accord mutuel, une paix totale, les peuples d'Assyrie et d'Akkad furent mêlés l'un à l'autre. Ensemble, ils établirent une ligne, une frontière stable. Alors, les peuples d'Assyrie et d'Akkad furent mêlés l'un à l'autre, ça marche. Ils conclurent un accord mutuel et une paix totale, et regardez ce qui arrive avant, ils se donnèrent mutuellement leurs filles pour épouse. Donc, possiblement, un mariage se situerait dans la cassure. Et vous gardez encore en tête cette histoire d'origine possiblement babylonienne. Comme je vous l'ai dit aussi, les rois assyriens prennent un nom de règne qui n'était, comme vous pouvez l'imaginer, pas innocent. Je vous rappelle qu'il faut attendre Sargon II et ses successeurs pour que les rois assyriens ne prennent pas des noms de prédécesseurs célèbres. Alors, si deux des prédécesseurs de Samsiadad V, c'est-à-dire Samsiadad II et III, n'ont pas marqué l'histoire, il y en a deux autres qui l'ont un peu marqué. Samsiadad Ier est bien connu de ceux d'entre vous qui suivent les cours de Dominique Charpin. Il est parfois considéré comme une sorte de modèle pour les monarques assyriens. Quoi qu'il en soit, on notera qu'il est dit dans la liste royale assyrienne qu'il monta depuis Kardouniach, c'est-à-dire Babylone, pour s'emparer du trône d'Ashour, caractéristique qu'il partage avec Samsiadad IV. Encore un lien possible entre le nom et la Babylonie. Hasard ou coïncidence, nous verrons plus tard. Voici grossièrement esquissé le contexte de l'accession au pouvoir de Samsiadad V. Une accession alors que la Syrie se révolte contre son père, le vieux Salmanazar III. Révolte au cours de laquelle différents partis jouent leur jeu à l'intérieur du royaume, tandis que les puissances extérieures se positionnent aussi. Bref, tous les ingrédients pour que le nouveau roi éprouve le besoin de se légitimer. Tournons-nous maintenant vers les inscriptions royales du souverain pour voir comment ce dernier se présente. Bien évidemment, et comme toujours, une forme de loi de Murphy est parfaitement appliquée dans notre cas. Plus une situation historique paraît obscure ou complexe, moins il y a de texte. Ces inscriptions sont relativement peu nombreuses, souvent fragmentaires, et une seule est complète sur cette magnifique stèle. Il s'agit d'une stèle retrouvée dans le temple de Naboo, ici, à Nimroud, dédiée au dieu de la guerre Ninurta, ce qui fait supposer qu'elle était originellement placée dans son temple, donc le temple de Ninurta est là-haut. Et qu'elle aurait été déplacée ensuite. Compte tenu du récit des campagnes militaires, il est possible de la dater de 813, soit 9 ou 10 ans après son accession au trône, c'est-à-dire du moment où les révoltes intérieures sont matées, où la ville de Tilé est réintégrée dans le royaume, et surtout lorsque les armées assyriennes commencent à s'impliquer dans la politique babylonienne. Alors, commençons par voir ce que nous apprend le texte de cette stèle. Comme vous lisez tous parfaitement l'assyrien, je n'ai pas besoin de vous donner de traduction, ou on fait un petit effort. Bon, allez, je vais faire un petit effort. Première chose à constater, ce texte a la particularité d'être rédigé à l'aide de signes pseudo-archaïsants. Donc là, si vous donnez ça à lire à un étudiant formé au néo-assyrien, il ne lira absolument rien théoriquement s'il n'a fait que ça. C'est-à-dire que c'est une écriture qui s'inspire des graphies des textes sur pierre du début du deuxième millénaire, mais qui possède aussi des caractéristiques spécifiques. De nombreux commentateurs expliquent que le souverain aurait ainsi voulu inscrire dans une longue durée son histoire et que la graphie utilisée s'inspire de celle des textes du grand roi Samsi-Hadad Ier. Il s'agirait donc d'un possible argument pour montrer un soin ou un besoin d'exprimer une certaine légitimité. On notera néanmoins que la pratique de rédiger des inscriptions en signes pseudo-archaïsants n'est pas nouvelle. Un exemple est connu pour son père, par exemple Salmanazar III. Et une fois encore, les choses sont plus complexes car finalement nous disposons de trois exemples d'inscriptions de Samsi-Hadad V, évidemment très fragmentaires, qui sont rédigées chacune avec des graphies différentes. Si vous faites la comparaison entre les différents textes, vous verrez donc là notre stèle écrite dans un style parfaitement pseudo-archaïsant. Dans ce fragment retrouvé à Ninive, vous trouvez à la fois des graphies pseudo-archaïsantes et des graphies parfaitement assyriennes. Par ici, on en trouve un petit peu partout. D'accord ? Donc, une sorte de texte écrite en graphie double. Et ici, vous avez une inscription retrouvée dans la ville d'Achour qui est écrite en assyrien standard. Donc, si l'idée de s'inscrire de manière ponctuelle dans une longue histoire doit être gardée à l'esprit, ces variations de graphie montrent qu'il faut chercher une explication plus détaillée, tout comme celle de l'idée d'une volonté de faire un lien avec un glorieux ancêtre. Soulignons par exemple que si l'objectif était de légitimer sa lignée en utilisant des graphies anciennes, ce n'est pas suffisant. En effet, pourquoi avoir besoin de légitimer sa lignée dans la ville de Kalrou, qui certes est la capitale, mais qui ne s'est pas révoltée contre soi, et d'écrire dans la ville d'Achour, l'endroit où on doit normalement être couronné, une stèle en signe non archaïsant. La ville d'Achour qui d'ailleurs a soutenu son frère. Alors, l'inscription débute par une invocation au dieu de la guerre Ninurta, qui est suivie par la titulature du souverain, qui est une sorte de CV qui nous dit beaucoup du personnage et surtout de la façon dont il souhaite être perçu. Je cite « Samsi-Hadad, roi fort, roi sans rival dans le monde, pasteur des sanctuaires, le porteur du sceptre droit, celui qui conduit tous les pays, celui qui commande à tous, semence d'éternelle royauté, celui qui depuis les temps anciens les dieux ont désigné, le prêtre pur, celui qui pourvoit sans cesse les charras, c'est-à-dire le temple du dieu Achour, celui qui maintient les rites de les cours, celui qui met tout son cœur et son entendement pour les activités de l'Erursag-Kurkura, sanctuaire du dieu Achour, dans les charras, et les temples de son pays, fils de Salmanazar III, roi des quatre régions, le rival de la totalité des dirigeants, celui qui écrase des pays, petit-fils d'Assurnazirpal II, celui qui reçoit tribus et taxes de la totalité des bordures du monde, etc. Donc vous voyez qu'une sorte de modestie globale apparaît dans ce texte. Souvenez-vous quand même du contexte historique que je vous ai indiqué. C'est assez important. Donc si cette titulature, par rapport à celle que l'on connaît pour ses prédécesseurs immédiats, Salmanazar III et Assurnazirpal II, pourrait paraître assez modeste, elle correspond assez bien à ce qui est attendu sur ce type de support. Bien qu'il porte très peu de titres guerriers, vous le constaterez, il utilise plusieurs titres globalisants qui pourraient presque paraître étonnants quand on connaît la situation qui l'a conduit sur le trône et surtout les difficultés qu'il eut à rétablir la stabilité de la Syrie. Cela montre néanmoins que la situation de la Syrie au moment de la rédaction du texte est suffisamment stabilisée pour qu'il puisse s'autoriser à porter de tels titres. On constate aussi que plusieurs épithètes soulignent sa piété et surtout le présentent comme un pourvoyeur des temples, ce qui est attendu sur une stèle dédiée à une divinité et présente dans un temple. Enfin, soulignons le petit passage sur son ascendance. On nous dit qu'il est issu d'une semence d'éternelle royauté. Alors, cette expression n'est pas nouvelle, mais n'est que rarement documentée dans l'histoire assyrienne. Elle semble parfois apparaître lorsque un souverain a besoin de souligner son appartenance à la lignée assyrienne. Pourtant, cela pourrait paraître redondant. Je pense que vous serez d'accord avec moi. En effet, il est évident que Samsiadad V est de semence royale, puisqu'il est le fils de Salmanazar III. Tout comme son frère, d'ailleurs. Néanmoins, c'est une façon de l'inscrire dans une lignée qui remonterait aux origines de la monarchie assyrienne. Cette expression, finalement, se comprend mieux si on la lit avec la suivante. « Celui dont les dieux ont nommé le nom depuis les temps anciens ». C'est-à-dire celui que les dieux ont désigné depuis les temps anciens, ce qui souligne une sorte de prédestination, puisqu'il a été désigné par les dieux avant de naître, voire même avant que son père ne naisse. Une fois encore, la désignation d'un roi à la royauté par les dieux n'est pas nouvelle. En revanche, ici, nous avons un élément supplémentaire, celui d'une prédestination originelle. Donc, ces deux éléments de titulature mettent en avant le fait qu'il possède les caractéristiques essentielle pour être roi, à la fois le sang et l'élection divine. Cette mention de prédestination pourrait laisser entendre qu'il n'avait pas été le premier choix. En effet, s'il avait été désigné successeur de Salmanazar III, le fait de se dire « son fils » aurait théoriquement suffi. En revanche, souligner finalement une désignation antérieure à la vie de son père montre qu'elle n'allait originellement pas de soi. La question que je laisse ouverte pour le moment, est celle de savoir s'il s'agit ici d'un besoin de légitimation ou d'une affirmation de réussite. Le texte se poursuit par la description de la rébellion. Lorsque Ashur d'Aynaplu, à l'époque de Salmanazar III, son père, agit pour faire le mal par la révolte, la rébellion et les paroles pernicieuses, j'ai rien dit pourtant, il fit se rebeller le pays et préparer le combat. Il fit tourner à ses côtés les gens du pays d'Ashur, d'en haut et d'en bas, et alors là, il y a un potentiel problème de traduction, il ou ils renforcèrent ce lien par un serment, les villes devinrent hostiles, et il se prépara pour la mêlée et le combat. On laisse la question des villes pour après. Au premier abord, vous serez d'accord avec moi pour dire que ce passage est absolument clair et ne pose aucun problème d'interprétation. Le frère de Samsiadad V se rebelle contre son père, ce qui entraîne le soulèvement d'une partie de la Syrie, et Samsiadad V est celui qui met fin à la révolte. Les événements décrits ici sont très clairement ceux qui entraînent la mention de Sirou, révolte, dans les chroniques éponymales. Et le nombre de villes mentionnées confirme l'intuition que nous avions de la taille de cette révolte. En revanche, une lecture plus approfondie mérite quelques commentaires. Le cœur du problème est évidemment le pourquoi de cette révolte. Car finalement, pour nous, se pose la question de savoir si Samsiadad V a légitimement accédé au trône. Commençons déjà par le nom du frère du roi qui signifie « Ô Ashur, renforce l'héritier ». Alors, inutile de vous dire qu'on ne le connaît pas par ailleurs. Aucun autre document ne le mentionne. Certains considèrent notamment que ce nom propre implique qu'il ait été le premier-né compte tenu de la composante Aplou, héritier. Et qu'il fut donc, à un moment donné, désigné par son père comme successeur. Une théorie nouvelle et particulièrement intéressante propose même qu'il ait pu être couronné roi. Vous avez vu que dans les villes révoltées, nous avions Ashur, donc le frère se révolte, dispose d'Ashur et donc peut se faire couronner roi. Et donc, à un moment donné, nous aurions eu deux rois d'Assyrie de manière concomitante, ce qui aurait donc fortement impacté la légitimité de Samsiadad V. Et donc Ashur d'Aynaplu serait alors le nom qu'aurait porté le frère de Samsiadad V alors qu'il se considérait comme roi d'Assyrie. Cela en ferait un grand innovateur, car vous ne manquerez pas de constater qu'il s'agit d'un nom qui est inconnu par ailleurs dans la liste royale, donc nous aurions le premier exemple d'un roi assyrien qui ne se lie pas à la tradition de ses ancêtres. Par ailleurs, l'histoire montre que ce n'est pas parce que l'on est le premier que l'on est finalement désigné comme héritier et que, accessoirement, on devient roi. Je vous rappelle le cas des Saradons, plus jeune de ses frères, qui finalement devient héritier. Enfin, l'interprétation historique des noms propres peut finalement être assez subjective. Si certains noms propres, comme nom divin a donné un héritier, laissent en effet peu de doute sur le fait que cet enfant était à sa naissance l'héritier de la famille. Alors, petit clin d'œil totalement anachronique, je vous rappelle Louis XIV, enfant tardif, qui a eu comme surnom Dieudonné. Donc là, on est un peu dans la même chose. Si rien n'empêche que notre nom propre puisse être celui de l'héritier, une chose interroge, comment est-ce qu'on comprend la partie Daïn, renforce. Un nom propre très bien attesté, en revanche, est celui-ci, Ashur Daïn Charou, ou Ashur, renforce le roi. Comme vous le voyez, les deux noms propres ont la même structure, mais l'objet change. Dans un cas, nous avons l'héritier, et dans l'autre cas, nous avons le roi. Dans le cas de Ashur Daïn Charou, aucun de ces personnages n'est jamais devenu roi. Il s'agit plutôt d'une sorte de nom prière pour le roi. Dans ce cas, ne pourrait-on pas considérer que le nom propre Ashur Daïn Aplou ne serait non pas celui d'un premier-né, mais celui possiblement d'un cadet qui serait là pour soutenir le véritable héritier. Je laisse ça comme hypothèse. Alors maintenant, revenons-en à la question des hypothèses concernant la révolte. Alors, nous ne savons pas, évidemment, quel était le nom de naissance de Samsiadat V, dont nous ne savons pas s'il était héritier à l'origine. Si l'on réfléchit un peu à ce que je vous ai indiqué jusqu'à présent, et si vous suivez à peu près, je vais vous proposer 5 scénarios potentiels. Nous avons Samsiadat V était l'héritier désigné, Ashur Daïn Aplou, un cadet, se révolte. Ashur Daïn Aplou était l'héritier désigné, le futur Samsiadat V aurait profité de la faiblesse de son père pour lui prendre la place. Ashur Daïn Aplou était l'héritier désigné de son père. À la fin de sa vie, ce dernier le remplace par le futur Samsiadat V. Salman Hazar III aurait désigné un héritier inconnu par ailleurs, qui mourut, ce qui entraîna la désignation du futur Samsiadat V, entraînant la révolte de son frère. Salman Hazar III aurait désigné un héritier inconnu par ailleurs, qui mourut. Il n'eut l'occasion de désigner aucun héritier. Ashur Daïn Aplou et Samsiadat V se lancèrent à la conquête du trône. Vous serez d'accord avec moi que je pense qu'on a à peu près fait un tour à peu près complet. Donc maintenant, le jeu va être à la conclusion de savoir ce que vous préférez comme hypothèse. Alors, vous voyez qu'en fonction du scénario, la question de la légitimité et de la légitimation du souverain sera différente. Bon, j'ai parfaitement conscience que ces scénarios sont simplistes, car chacun d'entre eux doit ou devait impliquer aussi des jeux de pouvoir tant au niveau de la famille royale qu'au niveau des grands du royaume, qu'au niveau des provinces. Par ailleurs, n'oublions pas que la syriologue peut être influencée par certains présupposés, ce qui va nous forcer à nous interroger sur la pertinence de l'usage que l'on fait de la notion de légitimité et de légitimation. L'hypothèse la plus en vogue actuellement serait que Ashur Daïn Aplou était l'héritier désigné, puis que, à la fin de sa vie, Salman Hazar III ait changé d'avis pour désigner le futur Samsiadat V, ce qui aurait entraîné la révolte de son frère sur le modèle de ce que je vous avais dit de la succession de Sennacherib. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi supposer qu'à un moment donné, Samsiadat ait pu être l'héritier ? Bonne question. Ce qu'il fait supposer, c'est que quand vous lisez la liste des villes qui se sont révoltées, la capitale, Kalrou, ne s'est pas révoltée. Ce qui veut donc dire que si elle ne s'est pas révoltée, il est fort probable que Samsiadat V était soutenu par son père. Autre chose que personne ne prend forcément en compte, personne ne vous dit qu'au moment du déclenchement de la révolte, Samsiadat V était même en Assyrie. Si on imagine qu'il ait pu avoir des liens avec Babylone, il aurait très bien pu être à Babylone aussi. Je sais que tout ça fait partie de la création d'histoire, mais on doit avoir ces choses-là en tête. Bon, la suite du texte, lorsqu'on nous parle de ce qui se passe avec les gens d'Ashur. Une fois de plus, très simple à comprendre au premier abord, la population assyrienne change d'allégeance pour se tourner vers un rebelle. En revanche, il est plus complexe que cela lorsqu'on s'y arrête. L'expression elle-même est un unicum, mais elle peut être comprise à la lumière de documents postérieurs, notamment des pactes jurés dans les traités de succession, par exemple. Ici, on a l'impression que l'on jure un pacte qui est ensuite renforcé par l'instauration d'un serment. Il est intéressant de constater que ce pacte que vous avez ici se jure au niveau technique devant les dieux et non pas devant le roi. Nous aurions donc, si l'on suit le récit de Samsiadat V, une prestation de serment aux divinités envers le rebelle, sans que ne soit fait mention d'un pacte envers le roi ou son héritier. Ce qui se comprend, puisque Shamshi-Hadad ne considère que Ashurdaynaplu n'est ni roi ni héritier. Nous voyons donc ici une façon subtile de délégitimer son adversaire en le présentant finalement comme un simple rebelle. Face à cela, l'historien forcément s'interroge, car la présence de ce serment implique la prestation d'un pacte. La question qui demeure est celle de savoir quand ce pacte a été prêté et par et pour qui. Faut-il supposer, par exemple, qu'à l'origine, il a été prêté lors de la désignation de Ashurdaynaplu comme prince héritier par Salmanazar, ou plus simplement lors de sa révolte? Les conséquences ne sont pas les mêmes. La question qui se pose est celle donc de savoir qui était l'héritier légitime lors du déclenchement de la révolte. On notera néanmoins que le texte précise que c'est le frère rebelle qui fait prêter serment aux gens d'Assyrie et non Salmanazar III, ce qui souligne implicitement le fait que Ashurdaynaplu n'est pas l'héritier. De même, il n'est pas question de serment qu'aurait prêté le futur Samsiadat V. Ainsi, le texte ne cherche pas à prouver que Samsiadat V était l'héritier désigné, soit que cela soit implicite, soit qu'il n'ait pas été désigné comme héritier. Que nous disent maintenant les villes qui se rebellent? Il s'agit principalement de villes appartenant au cœur assyrien et surtout de villes très importantes comme Achour, où on s'est couronné, ou encore Ninive, qui était une ville à l'époque très importante. Les zones qui ne sont pas rebelles, donc celles qui soutiennent Salmanazar III et Samsiadat V, sont en revanche la ville de Kalrou, capitale de l'Empire, et une bonne partie des territoires de l'Ouest. La lecture du texte montre aussi un certain artifice rhétorique. La rébellion se déroule à l'époque du père de Samsiadat V, tandis que lui, en une phrase, la fait cesser. Alors que nous savons par la liste éponymale qu'elle dura encore au moins 2 ans après que le roi fut éponyme. Cette façon de présenter les choses est du point de vue de l'inscription royale logique, car le roi n'est actif que lorsqu'il devient roi. C'est pourquoi le passage débute à l'époque de Salmanazar III, soulignant qu'il s'agit d'une période antérieure au roi producteur de la stèle. Pour nous, cela présente aussi un autre problème, celui de la compréhension du temps historique. Les villes se sont-elles rebellées tout en même temps? La reconquête s'est faite d'un coup ou par étapes? Nous n'en savons rien. Le texte poursuit avec la description des 4 campagnes militaires menées par le souverain, bon, qu'il n'est pas évident de dater avec précision. Les 3 premières campagnes ont été dirigées vers l'est. On notera que la 2e campagne dirigée vers l'est est conduite par son chef eunuque, ce qui peut s'expliquer par le fait que ce serait le moment où le roi assyrien aurait été maté la révolte de la ville de Tilé, et surtout, elle se conclut par une offensive contre la Babylonie. Bon, quel bilan tirer de tout ça? Assez faible finalement, puisque de manière intéressante, peu d'éléments semblent être mis en avant pour légitimer le roi, dont les inscriptions montrent que son accession et son début de règne furent pour le moins chaotiques. Seule la mention de sa prédestination pourrait être un indice qu'il ne fut pas l'héritier désigné à l'origine. Voyons maintenant ce que les représentations iconographiques sur la stèle peuvent nous dire. Sur cette stèle est représenté le souverain, vous le voyez, le visage dirigé vers des symboles divins, une main levée et l'autre sur le sceptre. Suspense. L'exemple d'une stèle de son fils retrouvée sur le site de Tel Rima nous permet de comprendre comment les choses se faisaient. Vous voyez ici, alors ça c'est très intéressant aussi pour les biblistes, vous voyez la stèle du roi, le roi a les bras tournés vers un podium sur lequel devait se situer la statue divine. Alors, sur cette stèle, le roi est toujours accompagné de divinités représentées sous forme, non pas anthropomorphe, mais avec leurs symboles, qui sont ici. Nous trouvons dans l'ordre Ishtar, Hadad, le dieu de l'orage, Sin, le dieu lune, le dieu Shamash dans le disque ailé, et enfin la tiare à cornes, qui normalement à l'origine désigne le dieu suprême Enlil, et qui ici doit désigner le dieu Ashur. Vous remarquerez que le symbole du dieu Ninurta n'est pas présent, ce qui est logique puisque la statue devait être située à côté de la stèle. Alors, cette stèle a fait couler beaucoup d'encre. En effet, s'il est évident que nous sommes face à une représentation de roi assyrien, si vous regardez la couronne, par exemple, ça ne fait aucun doute. Le roi possède quelques caractéristiques qui dénotent des représentations que l'on connaît pour les rois assyriens de ce siècle. Alors, une première est sa barbe. Vous remarquez quelque chose, vous voyez ? Elle est divisée en deux. Eh bien, cette caractéristique est commune avec la fameuse tête de Sargon, qui n'est pas la tête de Sargon, vous voyez ici, tête retrouvée par ailleurs à Ninive. Donc, on aurait l'idée que cette façon de représenter la barbe du souverain serait encore une façon de s'ancrer dans les périodes anciennes. Il est par ailleurs vêtu d'un vêtement qui est dit babylonien. Alors, comment est-ce qu'on reconnaît un vêtement babylonien ? C'est très facile, parce que vous avez deux lanières qui vont à la ceinture. On connaît ça très bien, alors je vous en mets un exemple ici, vous voyez, ceci est un Kuduru Kessit, vous voyez le personnage a ce vêtement à lanière. Alors, en revanche, j'ouvre ici une parenthèse. Il n'est pas suffisant de dire que ce vêtement est de style babylonien, parce que nous disposons de représentations de rois babyloniens qui n'en portent pas. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Bien, si on reprend la représentation du trône où il se serre la main, vous voyez que le roi babylonien reconnaissable ici à sa couronne ne porte pas ce vêtement à lanière, contrairement au roi. En revanche, alors croyez-moi sur parole, la photo n'est pas aussi bonne, le même souverain, représenté sur un objet babylonien, porte ici le vêtement. Le roi syrien se présente, donc portant un type de vêtement babylonien spécifiquement associé probablement à certaines activités, le tout associé à ses attributs de roi assyrien. Faut-il comprendre qu'il mette en avant ses possibles origines babyloniennes, qu'il mette en avant l'importance de la culture babylonienne, ou serait-ce la conséquence de ses opérations militaires en Babylonie ? Alors, pour le moment, il est impossible de conclure pour le moment, mais chacune de ces réponses va avoir des conséquences sur la façon que l'on a d'appréhender la légitimité ou la volonté de légitimation du souverain. Pour ne rien arranger à notre affaire, qui, vous en conviendrez, commence à devenir un petit peu complexe, le roi porte un médaillon, que vous voyez ici, qui est dénommé croix cassite ou croix maltaise. La présence de ce médaillon, très exposé et seul sur le roi, a été interprétée comme une façon de démontrer sa légitimité et son véritable statut de prince héritier, même après avoir été roi depuis plusieurs années. Pourquoi ? Eh bien, parce que ce médaillon a très tôt été identifié avec ce qu'on appelle l'ispilurtu, dont on sait par ailleurs qu'il s'agit du symbole du prince héritier. Donc, si cette identification est juste, nous aurions enfin la preuve que ce souverain cherchait à se légitimer et à légitimer son accession en soulignant son statut de prince héritier. On s'arrête là ou on instruit le dossier pour voir comment ça se passe ? On va avancer un petit peu. Alors, en effet, dans une lettre datant du règne d'Assurbanipal, un savant écrit au roi « L'Ispilurtu et le Kizirtu de Naboo, le roi monseigneur le sait, car l'Ispilurtu est la marque du prince héritier. » Donc là, c'est clair, Ispilurtu, marque du prince héritier. Bon, alors le passage pose des problèmes, parce que Kizirtu, c'est une traduction qui n'est pas assurée, on propose de le traduire par emblème de manière purement contextuelle. Et nous voyons plus loin que, nous dit, le roi m'a écrit ceci, peut-être que maintenant qu'ils ont placé l'Ispilurtu dans ma maison, mes paroles seront plus sages. Là, on comprend tout à fait la logique. Le roi ayant un symbole du dieu Naboo à proximité, c'est-à-dire le dieu de l'écriture, il est inspiré par la sagesse du dieu. Bon. Ispilurtu est traduit aussi par croix parce que son idéogramme est le signe bar. Vous voyez, c'est une croix. Ce qui correspond bien à une croix, et par ailleurs, ces contextes d'apparition sont toujours liés à quelque chose de cruciforme ou s'en rapprochant, notamment la question de la croisée des chemins, par exemple. Une remarque néanmoins. Nous disposons parfois, dans des textes, de dessins qui nous décrivent des signes cunéiformes et leur interprétation, c'est notamment le cas de textes divinatoires. Un exemple ici. Vous voyez, l'apodose nous dit « si la fissure ressemble à un signe bad ». Vous avez le dessin ici. Le problème, c'est qu'à l'époque néo-assyrienne, le signe bad, il ressemble à ça. Et donc vous voyez que le signe qui est ici est plutôt d'inspiration archaïque. Et donc si on en revient à notre histoire du mâche, vous vous dites, après tout, pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas ressembler à ça ? Vous êtes d'accord ? Alors, pourquoi est-ce que ces choses-là sont importantes ? Eh bien, parce qu'il semblerait que l'Ispilurtu soit le sceau du prince héritier. Donc vous allez me dire, puisque c'est le sceau du prince héritier, il suffit de retrouver la marque du sceau pour savoir à quoi il ressemble. Comment est-ce qu'on le sait ? On a un texte qui nous dit, par exemple, que le scribe écrive ses paroles et qu'il scelle la tablette avec le sceau Ispilurtu. Jusqu'à présent, tout va bien. Mais il semblerait que la glyptique permette d'autres conclusions. Si, en effet, il existe des empreintes de sceaux comme celle-ci, avec des croix, lorsqu'on regarde le contenu des textes scellés comme ça, ça n'a strictement rien à voir avec le prince héritier. En revanche, on trouve régulièrement dans des sceaux du palais associés le lion, le scorpion et une sorte de croix. Nous savons que le lion, c'est le roi. Nous savons par ailleurs que le scorpion, c'est la reine. Comme le trio dirigeant du palais, c'est le roi, la reine et le prince héritier, on en déduit que ça devrait être ça, la marque du prince héritier. D'accord ? Donc, si c'est le cas, vous serez d'accord avec moi pour dire que ça n'est pas la marque du prince héritier. Bon. Alors, si ce n'est pas la marque du prince héritier, qu'est-ce que c'est ? Alors, ce symbole apparaît dans le monde assyrien sur plusieurs représentations de souverains. Alors je vous rassure tout de suite, si vous lisez la bibliographie, au niveau de l'iconographie, vous avez le choix. Ça peut être le symbole du dieu Shamash, du dieu Nabu, du dieu Marduk, je pense du dieu Sin, du prince héritier ou d'une divinité, au choix. Alors, il apparaît dans l'iconographie assyrienne, notamment sur des colliers de souverains, comme vous le voyez ici. Vous voyez, ici. Associé avec d'autres colliers représentant, vous le voyez, des divinités. On voit qu'il peut aussi apparaître sur des boucles d'oreilles, vous voyez ici. Il peut apparaître seul, mais il est souvent accompagné d'autres symboles. Alors, le problème, évidemment, c'est qu'on constate facilement que, vous voyez ici, vous avez le collier et je donne un exemple. Vous avez ici votre collier et ici les représentations divines. Il est facile de faire le lien entre certains éléments des colliers et certaines divinités. Mais vous remarquerez une chose, c'est que lui, il n'y a pas de lien direct. Mais on peut, je pense, en déduire, sans trop se tromper, que ce symbole doit être un symbole lié à une divinité. Et les représentations du roi Assurbanipal peuvent peut-être, je pense, nous donner la solution. Regardez ici, je vous ai fait deux zooms de deux statues différentes. Vous voyez ici, nous avons Sin, Shamash, Ashur, Eshtar. Et là, vous voyez Sin, Adad, Eshtar. On est bien d'accord que ça, ce n'est pas la tierra corne. Donc, on pourrait supposer qu'il s'agisse de quelque chose qui ressemble à ça. Donc, il pourrait s'agir du dieu Shamash. Si l'on regarde en même temps ce que l'on a dans le disque ailé et au niveau du collier. On remarque ici, par exemple, bon, le disque ailé, on a quelque chose qui ressemble quand même à la croix, mais avec ces éléments supplémentaires. Si ce symbole est équivalent à celui-ci, alors celui-ci est équivalent à celui-là, et donc, globalement, on peut proposer qu'il s'agisse du symbole de Shamash. Alors, pourquoi c'est intéressant pour nous ? Parce que vous savez que Shamash est une divinité extrêmement importante pour la royauté assyrienne. Alors, je vous en montre un exemple. Nous sommes ici dans la salle du trône d'Assurnasirpal II. Vous voyez que pour rentrer, on a ici la stèle du banquet et là le trône. Sur la stèle du banquet, vous voyez le dieu Shamash, bon, le roi a ici évidemment son collier, qui donne le bâton du pastorat. Et derrière le trône, vous voyez qu'on a une petite divinité ici, dans le disque ailé, avec un petit anneau. Et vous voyez que là, le roi porte cette croix. Alors, je ne veux pas exagérer trop, mais vous voyez que ici nous avons donc le don de l'anneau, le commandement. Vous voyez qu'ici, est-ce que c'est lié à la perspective ou pas ? Le roi tel qu'il est présenté ici n'a que le médaillon d'Eshtar. Et quand il reçoit l'anneau, on voit qu'il a le médaillon de Shamash. Est-ce que c'est une question de perspective ou est-ce que c'est une question d'évolution du pouvoir royal en fonction du sacre ? Ça, c'est une question que je laisse ouverte, mais quand même, je trouve que c'est plutôt intéressant. Alors, le dieu Shamash, je vous l'ai dit, est extrêmement important dans l'idéologie royale assyrienne, car il s'agit du dieu de la divination, je n'ai rien dit à Shamash, on va revenir, c'est le dieu des juges, mais qu'est-ce qu'il fait d'autre, Shamash, qui est fondamental, en tant que dieu de la divination ? Ben, c'est celui qui va, finalement, désigner le roi. Et est-ce que vous pourriez me citer un objet sur lequel cette théorie est présente ? Que vous avez dû tous voir si vous avez été au Louvre. Non ? Le code d'Amourabi ? Vous voyez ? On a le bâton, on a l'anneau, et on a Shamash qui le donne. Donc, la théorie des liens entre Shamash et la royauté remonte très loin avant l'époque néo-assyrienne. Par ailleurs, le concept de domination du monde est extrêmement lié avec Shamash. Pourquoi ? Parce que finalement, le roi assyrien va tendre à dominer les espaces qui sont baignés par les rayons du soleil. Et par ailleurs, je vous rappelle que le roi assyrien est très souvent qualifié de soleil de la totalité des gens. Alors, si Shamash est bien le pourvoyeur de la royauté, et si le roi assyrien porte un symbole qui illustre cette notion-là, dans ce cas, on se rend compte que ce symbole apparaît sur Assurnasirpal II, Salmanasar III, Samsiadat V, Adad-Nirari III et Tiglath-Phanasar III. Sachant que les rois néo-assyriens antérieurs à Assurnasirpal II n'ont pas laissé beaucoup de représentations figurées, et qu'ici, on n'a quasiment rien non plus. Cette situation permet donc de douter une fois encore que ce symbole puisse symboliser le prince héritier. La question qui se pose est celle de savoir si un roi assyrien finalement avait besoin de souligner le fait qu'il fut prince héritier pour asseoir une certaine légitimité. Dans le cas de Samsiadad, la question qui se pose n'est pas finalement la présence du bénaillon, mais l'absence des autres. Cela signifierait que Samsiadad souhaite exposer tout particulièrement un attribut de Shamash, pourvoyeur de la royauté. On a l'impression ici que ce qui est important, c'est d'être roi, et pas tellement la façon dont on y arrive. Alors, j'aimerais pour finir revenir sur la question de la légitimité et finalement de la légitimité à utiliser ce terme. Le cas de Samsiadat V paraît un bon cas d'école pour illustrer la légitimation d'un souverain qui accède au trône avec quelques difficultés. Or, cette dernière, finalement, n'apparaît qu'en filigrane. Poussons un peu plus loin le raisonnement. Ce que l'on considère généralement comme étant le terme désignant un individu légitime est, vous le savez tous, Kenou. Et l'archétype, ce qui signifie permanent et ferme. L'archétype de cette chose, vous savez, c'est Sargon, Charoukin, roi légitime. Pourtant, lorsque l'on regarde les contextes d'apparition de ce terme dans les inscriptions royales, on constate deux choses. D'une part, à part Sargon, un roi n'est jamais qu'Enou. Et d'autre part, quand ce terme apparaît associé à d'autres mots, il est très difficile de le traduire par légitime. Pour en revenir à ce que disait Thomas Römer tout à l'heure, on le trouve notamment avec Réou Kenou, bon, qu'on traduit par pasteur véritable, pasteur vrai. Je suis d'accord avec vous que ça ne veut pas dire grand-chose non plus. On trouve un autre exemple, Soukal Kenou, qu'on traduit par juste vizir. Et vous voyez ici que un dieu est dit celui qui purifie le Kenou et le Ragou. Alors Kenou, ils traduisent par juste, et Ragou est le malfaisant. Donc vous voyez bien que Kenou, légitime, c'est pas tout à fait, comment dire, exact. Et vous savez que pour définir un terme, quelquefois, il faut voir le négatif. Alors, lorsqu'Assurbanipal nous parle de son frère, Shamash-shum-ukin, il nous dit qu'il est Shesh-la-Kenou, c'est-à-dire le frère Pakenou. On ne peut pas le traduire par frère non légitime, puisque Shamash-shum-ukin est le fils d'Esarhaddon, a été désigné légitimement roi de Babylone, donc il a tout pour être légitime. Le fait qu'il soit Lakenou, c'est parce qu'il s'est révolté contre son frère. Donc il ne s'agit pas à ce moment-là de légitimité, mais d'action ou de bonnes actions. Par ailleurs, sans aller tellement plus loin, on notera que le roi assyrien, comme je vous l'ai dit, est souvent qualifié de Réou-Kenou. Or, je vous rappelle que celui qui donne la crosse du pastorat, c'est le dieu Shamash. Je me demande donc si, mais il faudrait pousser un peu plus loin la réflexion, le symbole de la croix que nous avons vu ne pourrait pas exposer la nature, justement, Kenou du roi, c'est-à-dire non pas légitime, mais véritable, ou celui qui possède toutes les caractéristiques indispensables à être roi. Cela ne signifie pas qu'un prince héritier ne puisse pas être Kenou. On en a un très bel exemple avec justement Nabu-Zakir-Shumi, que vous voyez ici, où l'on a, vous voyez, le même symbole, et où on nous dit qu'il est fils de roi. Alors, arrivé au terme de cette présentation, que pensez-vous du cas de Samsiadat V ? Était-il l'isnogoute de l'affaire ? C'était peut-être un petit peu difficile de se prononcer, mais est-ce qu'il n'est pas difficile de se prononcer parce qu'il faudrait poser différemment la question de la légitimité ? Comme vous avez pu le voir, la question de la légitimité potentielle du souverain et son besoin de l'affirmer, lié à un sentiment d'insécurité, est assez prégnant dans la recherche. Or, la seule chose que la documentation nous permet de dire est justement que le souverain ne cherche pas explicitement à justifier son accession au trône. Par ailleurs, il faut poser, dans notre cas, la question de l'audience de la stèle. Elle s'adresse aux dieux. Faut-il prouver sa légitimité aux dieux qui théoriquement nous choisissent ? Finalement, Samsiadad a-t-il été prince héritier désigné ? Nous n'en savons rien, même si c'est probable. Son frère était-il légitime ? Une fois encore, nous n'en savons rien. Se couronna-t-il roi ? C'est possible. En revanche, aucun document officiel assyrien ne le précise. Samsiadad souligne en revanche la prédestination qu'il a à régner, ce qui montre que cela ne devait pas être le cas à l'origine. Cette prédestination lui permet d'ancrer son histoire jusqu'aux origines de la monarchie assyrienne. Même si le phénomène doit être mieux expliqué dans le détail, le caractère archaïsant de ces inscriptions doit aller dans ce sens. Tout comme le choix de porter le nom du premier roi assyrien qui en inspira déjà trois autres avant lui. La stèle sur laquelle il se présente, notamment avec le symbole que l'on peut associer au dieu Shamash, le montre comme un roi véritable. Est-il légitime ? Si l'on en croit certaines définitions, oui, puisqu'il se présente comme correspondant à ce que l'on attend d'un roi. Lorsque sa stèle est produite, les problèmes du début de son règne commencent à s'éloigner, et son pouvoir est certainement beaucoup plus assuré. Bien entendu, tout cela correspond au message qu'il souhaite transmettre. Que la vie réelle soit un peu plus complexe, nul n'en doutera. Pour conclure, on soulignera néanmoins que dans cette lignée royale, qui dura plusieurs centaines d'années, le pouvoir est resté longtemps au sein d'une même famille, ce qui n'empêchait pas les coups d'État. Mais ce qui montre que la mention du fait que Samsiadat V soit un descendant d'une royauté éternelle n'est pas liée au hasard, et que la première des légitimités pour devenir roi d'Assyrie était d'appartenir à la famille royale. Cela montre finalement la difficulté pour un pouvoir assyrien, d'être illégitime. Et je vous remercie pour votre attention.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.